la banane maximum. Ta gueule, ta gueule.
Je me fous du
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
For the local.
Vive mon grand galion. Vive le soleil. Vive
les oreilles.
Libre.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste 89.4 sur, en région parisienne et sur Internet, partout ailleurs dans le monde, sur Internet via le site de la Fédération Anarchiste et le site de Radio Libertaire, bien sûr. Alors aujourd'hui, il va être question d'art brut dans les oreilles libres. Les oreilles libres, une émission consacrée aux musiques singulières et aux autres formes d'expression curieuses. Et c'est de cette dernière occurrence dont il va être question aujourd'hui. Forme d'expression curieuse, et bien l'art brut en est une. J'aimerais commencer par lire un extrait d'un texte. La caste possédante, aidée de ses clercs, qui n'aspire qu'à la servir et s'y insérer, nourrie de la culture élaborée par elle à sa gloire et dévotion, la caste possédante ne tâche pas du tout, ne nous y trompons pas, quand elle ouvre au peuple ses châteaux, ses musées, ses bibliothèques, qu'il y prenne l'idée de s'adonner à son tour à la création. Ce n'est pas des écrivains ni des artistes que la classe possédante, à la faveur de sa propagande culturelle, entend susciter, c'est des lecteurs et des admirateurs. La propagande culturelle s'applique, bien au contraire, à faire ressentir aux administrés l'abîme qui les sépare de ces prestigieux trésors dont la classe dirigeante détient les clés, et l'inanité de toute visée à faire œuvre créative valable en dehors des chemins par elle balisée. Ce texte est extrait de Asphyxiante, culture de Jean Dubuffet, écrit en 1968. Dubuffet a théorisé l'art brut dès 1945. Voilà la définition qu'il en donne en 1949 dans Prospectus et tous écrits suivants, l'art brut préféré aux arts culturels. Nous entendons par là des ouvrages exécutés par des personnes indemnes de culture artistique, dans lesquels donc le mimétisme, contrairement à ce qui se passe chez les intellectuels, est peu ou pas de part, de sorte que leurs auteurs y tirent tout de leur propre fond et non pas des poncifs de l'art classique ou de l'art à la mode. Nous y assistons à l'opération artistique toute pure, brute, réinventée dans l'entier de toutes ses phases par son auteur, à partir seulement de ses propres impulsions. De l'art, donc, où se manifeste la seule fonction de l'invention et non celle constante dans l'art culturel du caméléon et du singe. Voilà, eh bien, je pense que ça correspond bien à notre émission, l'art des fous. Voilà, on part souvent de l'art des fous pour parler d'art brut. Il va en être question dans l'entretien que vous allez entendre. Moi, je voudrais aussi mettre l'accent sur l'art de l'homme du commun, de vous, de moi. L'homme du commun, c'est une citation de Dubuffet. Hein. Il y a un livre intitulé L'homme du commun à l'ouvrage, hein, de Dubuffet. Alors, c'est vrai qu'on connaît tous à la campagne quelqu'un qui décore son jardin, qui fabrique des petits objets, des machins, tout ça. Mais on parle de campagne, mais aussi en ville. Je me souviens d'avoir reçu dans cette émission Laurent Danchin, qui était venu nous parler de Marcel Storr, qui était un balayeur à la ville de Paris. Et dans sa salle à manger, Marcel Storr, on a retrouvé des dessins, des peintures qu'il faisait, tout en étant balayeur à la ville de Paris. Donc voilà, c'est pas la campagne, c'est Paris. Et ses œuvres extraordinaires étaient cachées sous la nappe de sa salle à manger. On les a retrouvées après sa mort. Voilà, donc je pense que dans l'art brut, il est question de créativité de chacun d'entre nous, de ce qui se passe quand on permet à cette créativité de s'exprimer, quand on passe outre, quand on désobéit aux injonctions de la culture dominante, de bien rester à notre place dans notre fonction, de notre métier, de notre spécialisation, tant il est vrai que l'art est devenu une profession. Il faut suivre des études, les beaux-arts, les écoles d'art, je ne sais quoi. Ou alors, peut-être dans une occurrence plus moderne, plus récente et plus lamentable encore, il faut obtenir l'aval d'un jury, je pense aux émissions de télé-réalité où des chanteurs viennent se confronter à un jury et en même temps il n'est pas question de création là-dedans, hein. Il s'agit de chanter des reprises de chanteurs célèbres, voilà ce à quoi on a le droit. Il nous semble pertinent sur Radio Libertaire de parler d'art brut, hein. Ça a quand même un rapport avec la politique. On s'en prive pas dans notre émission assez régulièrement, de plus en plus d'ailleurs. Enfin, il faut dire que l'art brut étant à la mode, il y a plus en plus d'occasions d'en parler. Et on se prive pas non plus de... C'est un peu pour les mêmes raisons politiques, hein, que nous diffusons régulièrement des musiques en marge. Voilà. Il fallait que ce soit dit aussi. Ces musiques sont parfois même, comme on va s'en rendre compte la semaine prochaine, ces musiques sont parfois même produites et réalisées et créé par des non-professionnels. Mais Aujourd'hui, il est question de la collection, de l'exposition Collection ABCD Bruno de Charme qui a lieu actuellement à la Maison Rouge. Nous recevons Barbara Safarova. Nous l'avons reçue il y a deux jours dans nos studios. Hein. L'enregistrement sera donc diffusé en différé. Pour moi, c'est une des meilleures expositions d'art brut que j'ai vues. Hein. Alors déjà, le lieu, la Maison Rouge, c'est un lieu superbe, hein, avec de l'espace. La mise en scène, j'allais dire, c'est pas la mise en scène, c'est la muséographie, je crois qu'on dit, est assez extraordinaire. Hein. Tout est bien calculé, tout est bien choisi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? J'ai vu des œuvres d'artistes connus maintenant dans l'art brut, hein, qui sont vraiment des stars de l'art brut, des choses que j'avais jamais vues ailleurs, hein, et que je soupçonnais pas. On en parlera dans l'entretien avec Barbara Safarova. Également, j'ai découvert pas mal d'artistes plus modernes, hein, plus récents, que je ne connaissais pas. Je vous encourage vraiment à aller à cette exposition à la Maison Rouge. Et bien, sans plus tarder, je vous propose d'écouter l'entretien que nous avons eu, Laurent et moi, avec Barbara Safarova. Bonjour Laurent Pascal.
Bonjour Christophe, et puis bonjour Barbara. Nous recevons aujourd'hui Barbara Safarova à l'occasion de l'exposition actuellement à la Maison Rouge. C'est la collection ABCD de Bruno de Charme qui est exposée jusqu'au 18 janvier, si je ne me trompe pas. Et donc voilà, nous avons le plaisir de te recevoir pour la deuxième fois, parce que tu étais venu alors peut-être il y a 2-3 ans, je ne peux pas si tu es...
Deux
ans peut-être, voilà.
Bah bonjour Laurent, bonjour Christophe.
Bonjour Barbara.
Peut-être on peut présenter le morceau qu'on a écouté en introduction.
Ah ben ça c'est une excellente idée. J'adore ce morceau en plus.
Je te laisse le soin de le faire.
Qu'est-ce qu'il faut que je dise du coup
Bah, je crois que c'était un trio que vous aviez fait à la Saint-Pierre.
Voilà, alors donc je vais modestement désannoncer le trio qu'on avait joué pareil il y a deux ans à la Halle Saint-Pierre avec Pascal Battus, Jean-Luc Guillonnet et moi-même. C'était Eric Cordier qui organisait un festival de musique brute et puis qui nous avait donc sollicité pour jouer en trio. Et la personne qui a enregistré ce morceau, c'est toi-même, cher Christophe.
Ah, c'est vrai.
Et, ouais, et donc, voilà, on a eu le plaisir d'entendre ce morceau-là.
Alors, c'était un hommage à Dubuffet, il me semble.
Je crois pas que Dubuffet, alors là on va rentrer dans une autre émission du coup, mais je crois pas que Dubuffet aurait vraiment aimé le terme dommage.
Ah oui.
C'était plutôt un pied de nez à Dubuffet.
D'accord.
Et je pense que c'est la meilleure façon peut-être de lui rendre un hommage.
On écoutera plus tard Jean Dubuffet dans ses expérimentations sonores, mais peut-être avant, on peut, même si tu es venu il y a deux ans, je crois qu'il convient quand même de te présenter à nouveau, Barbara. Ouais.
Donc, je me présente. Je m'occupe d'une association qui s'appelle ABCD, ce qui veut dire Arbre de connaissance et diffusion. On existe depuis une dizaine d'années. D'une dizaine d'années maintenant, c'est quasiment 15 ans. Donc 99, okay. On s'est structuré autour de la collection du cinéaste Bruno de Charme, qui est une collection de l'art brut. Okay. On est une espèce de laboratoire de chercheurs et de gens qui s'intéressent à l'art brut. Donc l'idée, c'est de travailler avec cette collection à travers l'organisation des expositions, production des films documentaires sur les artistes, non pas uniquement dans la collection. Édition des livres, on fait des journaux qui accompagnent chacune de nos expositions dans notre espace à Montreuil, et puis collaborer en tout un tas d'activités avec d'autres associations. L'espace dont nous disposons à Montreuil est où on montre des parties de la collection est aussi un espace, parfois on fait quelque chose qu'on appelle la carte blanche, et en ce moment-là, en fait, on a une exposition d'un artiste belge qui est de l'atelier de la S, qui se trouve près de Liège, qui s'appelle Eric Derken.
Donc il y a une œuvre d'ailleurs assez magistrale qui est exposée à
la Maison Rouge également, et qui est organisée en fait par l'atelier de la S, sous le commissariat de Gustavo Giacosa, qui est la personne qui a fait aussi l'exposition de Banditi de l'art à Halle Saint-Pierre.
Et alors toi, du coup, est-ce que peut-être plus concrètement, ton rôle, ça consiste à quoi dans cette association ?
Alors moi, personnellement, je suis une chercheuse, essayiste. Ce qui m'intéresse, c'est de le travail du terrain avant tout, parce que l'art brut, le concept de l'art brut, c'est une chose, mais il y a aussi le concret de la collection. Ouais. Donc c'est d'aller chercher les artistes, de travailler sur les artistes et sur les œuvres, parce que c'est quelque chose que j'aime particulièrement, que ce soit à travers la production des films, mais aussi à travers l'écriture. J'organise aussi un séminaire au sein du Collège international de philosophie qui essaye d'interroger l'art brut à travers les productions qui se trouvent dans ce champ.
D'accord. Avec pas
mal d'invités qui sont des historiens de l'art. Le dernier en date, c'était Philippe Dagen qui est intervenu à la Maison Rouge il y a une dizaine de jours. Mais c'est aussi des gens qui viennent d'autres champs de réflexion et du concret aussi, des collectionneurs, des artistes eux-mêmes, des gens qui animent des ateliers. Cette année, je vais inviter aussi Christian Cuticcio qui s'occupe de l'atelier Goldstein à Francfort en Allemagne. Donc vous allez pu voir l'œuvre Les Avions partir de boîtes en carton de Hans-Jörg Georgi. Elle va venir pour parler de ses pratiques artistiques et de la façon dont elle anime cet atelier. Donc il y a des gens qui viennent de tout un tas d'horizons différents, parce que l'idée c'est justement de garder ce côté interdisciplinaire et l'esprit d'ouverture. Ça c'est très important.
D'accord. Donc à la fois une pratique de rencontre des artistes, de quête aussi de ce qui se passe dans le milieu-là, et à la fois aussi un certain recul à travers le séminaire.
Oui, je pense que c'est nécessaire, non seulement... Oui, ce recul, c'est aussi ce que nous a demandé Bruno Deschamps, parce que d'un côté, en fait, il est collectionneur, mais en même temps, il a besoin de ce regard des autres, qui est la raison principale pour laquelle il fait voyager cette collection, et pour laquelle il invite d'autres chercheurs de réfléchir sur la collection. Il y avait aussi une carte blanche à une autre association, le CRAB, qui est un collectif de réflexion autour de l'art brut. Ce sont des jeunes chercheurs qui font des thèses de doctorat ou qui les ont finis, pour certains, sur le sujet de l'art brut, qu'eux se sont amusés, ils ont choisi certaines œuvres de la collection, ils ont réfléchi sur ces œuvres-là. Donc oui, l'idée c'est de continuer à collectionner, mais en même temps d'essayer d'avoir une espèce de visibilité sur cette passion.
Puis je trouve que ça donne une épaisseur du coup aux œuvres aussi de pouvoir les traverser aussi à travers une réflexion. Ou
c'est une invitation aux autres à chaque fois.
Les sensibilités.
Et puis se laisser aller, en fait, assumer sa propre subjectivité aussi, à la croiser avec le regard des autres.
Et oui, c'est ça, parce que chacun a ses parcours aussi et ça se rencontre. Donc ça, c'est plus la collection ABCD, donc c'est la collection de Bruno de Charme. Ça fait combien d'années? C'est en dizaines d'années peut-être que ça s'est constitué.
Écoute, cette la collection, en fait, il a commencé à collectionner il y a une trentaine d'années, ça date. Son regard, en fait, s'est modifié depuis le début, parce qu'au départ, il s'intéressait beaucoup à des œuvres qui sont plus dans le champ des singuliers. Mais en fait, avec le temps, je veux parler à sa place, son regard s'est aiguisé et c'est vraiment autour du concept de l'art brut que ça tourne. Maintenant, il y a des différences dans les collections de l'art brut. Si vous allez voir la collection de l'art brut à Lausanne, ou même celle de la Racine qui est exposée au LAM, vous allez vous apercevoir des différences dans ces collections. Enfin, donc au cœur de la collection de Bruno, il y a les artistes qui sont actuellement exposés à la Maison Rouge. Il y a des artistes, disons, plus historiques aujourd'hui, comme Alois Corbas ou Adolf Wölfli. Mais il y a aussi beaucoup d'artistes nouveaux qui viennent des pays très très différents. Là, tu as l'image de Luboš Plný, qui est un artiste tchèque vivant. Enfin, il y a le Japon beaucoup, il y a le Brésil, la Colombie, l'Argentine. Enfin, le concept s'est considérablement enrichi depuis une vingtaine d'années ou une dizaine d'années.
Et du coup, c'est une collection qui est très internationale aussi.
Oui.
Ça aussi, ça fait partie de ces
caractéristiques. Du coup, c'est intéressant de réfléchir, de se dire, est-ce que le concept de l'art brut, est-ce que ça a lieu d'exister, par exemple, dans des contextes géographiques et culturels très différents? Quand on regarde, par exemple, l'œuvre de Guo Fengyi, et historiquement, est-ce que c'est intéressant de parler de l'art brut ou pas? Et aussi, par exemple, le Japon, quand on regarde la création qui s'est faite dans des ateliers, est-ce que le concept de l'art brut apporte quelque chose d'enrichir le regard sur ses œuvres? C'est ça la question qu'on essaye de...
Et en même temps, ce que je trouve bien, c'est qu'il assume aussi, lui, pleinement sa subjectivité, ses choix, et que... Du coup, c'est aussi... je ne le connais pas suffisamment, mais j'ai l'impression d'une collection qui lui ressemble, quelque chose qu'il a voulu...
Oui, en fait, ce qui intéresse Bruno, je pense, et ce qu'on peut voir dans cette exposition, c'est vraiment les artistes qui ont leur propre vision du monde. Enfin, je ne sais pas si on peut parler de cosmogonie, c'est un mot qui est tenté historiquement, mais c'est réellement des artistes qui ont développé tout un système de réflexion ou d'organisation du monde. Parce que, par exemple, si vous regardez l'œuvre de Zdeněk Koušek, qui était obsédé par la météo, ou de quelqu'un comme George Weidener qui s'intéresse au calendrier et qui pensent aussi que ce sont les dates du calendrier qui organisent tout ce qui se passe sur la planète. Ce sont réellement des systèmes très originaux du regard sur nous, sur la planète, sur ce qui se passe autour de nous. C'est ça ce qui intéresse Bruno.
Bah oui, parlons peut-être de la Maison Rouge qui accueille donc cette exposition. C'est à Bastille, la Maison Rouge, je ne connais plus l'adresse par cœur.
Je crois que c'est 10 boulevard de la Bastille.
10 boulevard de la Bastille, voilà, dans le 12e arrondissement. C'est la Fondation Antoine de Galbert qui a eu déjà, à ma connaissance, quelques expositions d'art brut qui est aussi axé. Enfin, Antoine de Galbert qui est lui-même collectionneur, il y a beaucoup d'art contemporain également à la Maison Rouge.
En fait, ce qui intéressait Bruno, c'est ces trois choses en fait, que tu mentionnes. Le fait qu'il y avait déjà plusieurs expositions de l'art brut qui avaient lieu à la Maison Rouge. Il y avait notamment l'expo d'Augustin Lesage, si vous vous souvenez, juxtaposé avec l'œuvre d'un artiste contemporain autrichien qui s'appelle Elmar Trenkwarder, qui fait des objets en céramique. Il y avait l'exposition de Darguer, l'exposition de Louis Souter, ça c'est une des dernières, et puis il y avait l'exposition de la collection de Arnaud Freiner. Donc il y a toute une thématique déjà des collections de l'art brut, et puis le fait que ce n'est pas une institution classique, c'est vraiment un lieu qui accueille des collectionneurs, qui est animé par un collectionneur, ça change complètement le regard et la façon dans laquelle s'est construite l'exposition, et c'était très important pour nous de travailler de cette façon-là.
Et donc c'est Bruno qui a conçu vraiment l'exposition, ou il a mis à disposition ses œuvres, et puis ça a été collectif.
Alors ça fait deux ans qu'on travaille sur l'exposition, on a réfléchi sur le concept ensemble, parce qu'on s'est dit qu'il fallait assumer la subjectivité jusqu'au bout, qu'on n'allait pas proposer un intime regard historique sur l'art brut, mais qu'au contraire, il fallait assumer la subjectivité du collectionneur. C'est pour ça que Bruno aussi ne parle pas de la collection ABCD, ça s'appelle collection ABCD Bruno Decharme, c'est la première fois qu'il met son nom. Et puis le parcours, c'est quelque chose de très subjectif qui s'est structuré quand on a regardé les œuvres. On a commencé par l'idée du chaos et d'essayer de donner la forme, l'émergence de la forme, mais c'est pas quelque chose qui se veut diachronique en fait, parce que le chaos, il est là tous les jours en fait, il risque de nous envahir à tout moment, et ces gens-là le montrent avec une acuité assez particulière, donc c'est pas quelque chose qui serait le début. Et après ça, on passe à autre chose, c'est le point de départ. Et puis il y avait Bruno qui avait envie de finir sur une idée de l'espoir ou de sauvetage du monde, et c'est Hans-Jürgen Georgi avec ses avions en fait, ou l'Arche de Noé, qui dit que dans quelques années la planète Terre ne sera plus habitable, et qu'il faut bien amener des gens dans l'espace pour qu'ils puissent vivre un jour ailleurs.
Et du coup, il a construit des paquebots interstellaires.
Et donc, il a construit des paquebots qui contiennent des discothèques, des bordels, des bowling. En fait, il a pensé à tout à l'intérieur de ces vaisseaux. Donc,
voilà. Et puis donc, entre ces premières et dernières étapes, il y a 12 espaces, on va dire, 12 thématiques qui se recoupent. Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que du coup... il y a des choses qu'on retrouve, des artistes par exemple qu'on a vu dans une salle, qu'on va retrouver dans une autre, et du coup il y a aussi des liens qui se font d'une salle à l'autre. C'est intéressant que les choses se tissent plutôt que d'avoir des espèces de choses très monographiques, tel artiste, telle période. Là, au contraire, on a l'impression plus petit à petit de rentrer dans les choses.
Écoute, c'est une division qui est assez arbitraire aussi, parce que bon, elle est subjective, et on pourrait très bien mettre un artiste dans un autre espace. Enfin, c'est permutable, c'est vraiment le regard d'Antoine et de Bruno. Par exemple, il y a les chimères au début, en fait, ou la figure un peu composite, qui est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans l'art brut, qui voisine en fait les objets magiques, parce qu'on avait envie de mettre un accent sur le fait que ces œuvres n'ont pas été produites en tant que des œuvres d'art, mais qu'il s'agissait d'un rituel ou d'un geste très particulier pour la personne qui les a produits, avec souvent aucune intention esthétique, que c'était quelque chose qui était important pour d'autres raisons que de produire une œuvre. Donc il y a les objets magiques où on peut voir des choses très diverses, des choses qui peuvent rappeler l'art populaire d'un côté. Il y a les ex-voto brésiliennes, il y a les œuvres d'Auguste Forestier qui sont faussement populaires. Et à côté, on a mis par exemple cet Italien qui s'appelle Bellucci, qui fait des choses à partir des pneus de vélo. Et il y a aussi Judith Scott qui fait partie des objets magiques pour mettre l'accent sur, sur le côté rituel de la fabrication de ces œuvres. Il y a aussi des œuvres, des parties plus monographiques, parce qu'on avait quand même envie de montrer des artistes qui, pour Bruno, sont au cœur de sa collection, comme Janko Domšić, Aloïse, Evelfly. Ça aurait été difficile de les disperser. Après ça, il y a aussi des surprises, parce que, par exemple, Aloïse, il y a un côté plus érotique, entre guillemets. On a choisi, en fait, c'était Antoine qui l'a mis à côté des œuvres de ce photographe qui s'appelle Miroslav Tichý, qui a passé sa vie à photographier les femmes.
Oui.
Enfin, ou les morceaux des corps des femmes, ouais. En fait, avec sa caméra qui s'est fabriquée, enfin, son appareil par ses propres soins.
Qui cachait un petit peu.
Qui cachait un petit peu, donc il y a toujours un côté un peu voyeur. Et ça fait voir Aloïs d'une autre façon aussi, je pense que c'est quelque chose qui était inattendu, alors que Tichy, on peut le voir dans des expositions de l'art contemporain. Il a eu aussi une expo monographique à Beaubourg. Là, il se trouve exposé ou montré de façon différente. Et ça dit quelque chose sur l'œuvre d'Aloïs. Et ça dit autre chose sur l'œuvre de Tichy qu'on ne voit pas d'habitude. Donc,
Et puis surtout, c'est rare aussi qu'on voit des œuvres photographiques dans le...
Oui. Alors, on avait envie aussi de casser ce présupposé de la brute, c'est qu'on peut se dire que la photo n'a rien à voir dans ce champ, puisque c'est une technique, c'est pas quelque chose d'autodidacte, souvent. Il y a aussi le support il y a l'appareil qui se met entre l'œuvre et l'artiste. Ouais. Mais c'est une question qu'on pose. Et puis, Bruno, il a choisi de mettre Tichy dans sa collection. Donc voilà, c'est une proposition.
Ouais. Moi, en même temps, je trouve ça relativement évident. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de raison. Le pinceau, tout ce qu'on veut, c'est entre le créateur et son œuvre, de toute façon, qui est un outil et qui est une interface, c'est pas comment il faut dire, c'est peut-être trop contemporain comme vocabulaire, mais c'est la question, c'est plus peut-être le rapport à cet outil-là, la façon dont on va l'exploiter pour créer les œuvres, et en quelque sorte, là, justement, il y a à la fois un geste créateur assez fort, et en même temps, il est immédiatement dans ce qu'il fait.
Bah c'est ça, en fait, c'est comme ça qu'on le voit. C'est pour ça qu'on l'a mis. Il y a d'autres photos, je ne sais pas si tu te souviens des photos d'Alexandre Lobanov, qui est l'artiste russe, en fait, qui se met en scène en tant que chasseur avec les fusils. Mmh. Bah lui, en fait, il était enfermé pendant une cinquantaine d'années dans un hôpital psychiatrique dans la campagne, à côté d'une ville en Russie qui s'appelle Yaroslav. Mmh. Et il était ami avec le conducteur du bus de l'hôpital, qui l'amenait dans la ville pour faire les photos chez le photographe local, où il se met en scène avec les fusils en papier.
Mmh.
Autour de lui, qui font penser d'une certaine façon à des icônes russes.
Bah, c'est une imagerie assez stalinienne. Avec
avec Lénine et Staline, souvent dans des médaillons bizarres.
Des étoiles.
Et lui au milieu toujours, parce que ce sont des autoportraits, en fait, quand on voit ces photos, on les reconnaît sur ses dessins et sur ses... Ouais.
Et alors, une des caractéristiques aussi de cette expo, c'est qu'il y a... Les biographies ne sont pas... mis à côté des œuvres. Moi, personnellement, j'apprécie. Je ne suis même pas allé voir...
C'est la grande question qu'on a à chaque fois.
C'est toujours une des grandes questions, mais je pense qu'il faut le mentionner, puisque là, c'est forcément un choix fort.
Elles sont accessibles sur des...
Voilà. Il y a plusieurs endroits de l'expo, des bornes sur lesquelles on peut...
C'est une grande question. C'est une grande question parce qu'on n'avait pas envie de dire dès le départ, voilà ce que c'est cette personne et voilà ce qu'elle fait. Ce n'était pas du tout le but. En fait, l'idée, c'était de... faire en sorte que les gens regardent d'abord les œuvres et puis après, si ça les intéresse, et je pense que ça peut enrichir le regard, qui est la personne derrière. Mais c'était pas...
Il y a des questions assez simples que je me pose quand je vais voir des expositions, mais là, je sais pas si elles sont toujours pertinentes. Par exemple, dans quelle époque l'œuvre a été créée, à quel moment de la vie, est-ce que c'était une œuvre de jeunesse ou c'était une œuvre de jeunesse ? Et là, en fait, je sais pas si c'est pertinent toujours pour aller voir cette exposition-là, parce que c'est précisément des créateurs qui s'inscrivent pas spécialement volontairement dans un flux historique. C'est-à-dire que les problématiques artistiques de leur époque, ils s'en fichent, quoi. Ça veut dire qu'ils les connaissent pas, mais c'est pas nécessairement
C'est un jeu
propos.
Entre...
Ils se situent pas nécessairement par rapport à ça. Et du coup, ça a peut-être moins de sens pour moi de savoir que c'est de 1920 ou 1990.
T'as raison, mais en même temps, en fait, je pense que c'est intéressant justement comme question de se dire, est-ce qu'on peut reconnaître le contexte, est-ce qu'on peut reconnaître le pays, ou est-ce qu'on peut savoir à quelle époque ils ont vécu. Pour certains, oui, par exemple, quand tu regardes l'œuvre de Achilles Rizzoli qui fait des grandes dessins, il n'y en a qu'une seule en fait. C'est un dessinateur technique qui a vécu à San Francisco dans les années 20. Il a beaucoup aimé l'exposition universelle de San Francisco. Ça l'a fait complètement délirer. Il a réfléchi sur une île imaginaire. Et ensuite, en fait, il a fait des propositions des bâtiments pour les âmes des défunts autour de lui, pour sa famille, pour ses voisins. Personne n'était au courant parce qu'il le faisait la nuit. Ouais. Et c'est intéressant, en fait, ce que ça dit sur son époque, sur cette idée de l'exposition universelle, sur les villes américaines qui étaient complètement reconstruites à l'époque parce qu'il y avait des tremblements de terre et des incendies importants à San Francisco. Ouais. Ce que ça dit sur le rêve américain aussi. Je pense qu'il y a les deux. Pour Wolfli, par exemple, aussi, en fait, Wolfli, il n'avait pas l'accès à l'art officiel ou à l'art de l'époque, mais il avait accès aux revues populaires de l'époque. Parfois avec 2-3 ans de retard. Mmh. Et je trouve ça intéressant aussi comment lui, il s'est servi dans ses collages. Ce que ça dit sur son époque, parce que tu peux retrouver les fragments de l'époque dans laquelle ils ont vécu, mais pas de la façon dans laquelle un artiste, un artiste professionnel aurait travaillé.
C'était pas le même rapport, mais de toute façon, il y a un flux.
Mais il y a un rapport,
qui les,
oui,
traverse,
exactement.
D'une certaine...
Mais de façon très intéressante, en fait. Mmh. Parce qu'il y a rarement un message idéologique ou esthétique, mais il n'empêche que ça dit quelque chose sur nous. Ouais.
Ouais, qu'on découvre en voyant ces œuvres.
Bah, peut-être on va faire une première pause musicale. Qu'est-ce que tu proposes, Laurent ?
Eh ben, vas-y, toi.
Ah ben, moi, dans la collection, dans l'exposition, il y a deux œuvres de August Valla. Et donc, je propose d'écouter un extrait de Weltallende, un album du Franz Hautzinger Poète Congress. Weltallende, l'album a été improvisé, parce que ce sont des musiciens improvisateurs, à partir des œuvres écrites de August Valla. Donc je vous propose d'écouter un morceau qui s'appelle Madeleine Essen.
Missgeburt, brave, in Japan. Wäre.
Freak.
Aqua, Mädeln essen!
Brr. Mich.
Memak. Vor einigen Tagen habe ich jemanden gesehen. Kyrto! Kyrto Otter! Kyrto Otter sitzt in seinem Zirkuswagen! Kyrto! Kyrto! Häusliche Sachen. Baupolizei. Höflich.
Natürlich. Schauspieler arbeiten. Ich lade den Muck. Bitte. Lasse. Weil ich lieber. Aber der Weil ich lieber Berufe übernehmen will, nach meinem freien Willen, aber nicht nach zu dem anderen Ehrigen.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, Les Oreilles Libres, l'émission Les Oreilles Libres. On parle d'art brut aujourd'hui avec Barbara Safarova à propos de l'exposition ABCD Bruno de Charme à la Maison Rouge. Laurent.
Voilà, et donc nous parlions d'art brut. Moi, il y a une chose qui me touche beaucoup, là, notamment dans pas mal d'œuvres, c'est la fragilité du support sur lequel elles sont réalisées. C'est quelquefois des petits bouts de feuilles, c'est quelquefois des choses très intimes. Et pour moi, parce que ça me renvoie à cette nécessité de créative de leurs auteurs qui font qu'ils se soucient pas finalement de nous les donner à voir. C'est plus fort qu'eux. Enfin, c'est ce que je ressens à travers justement cette chose-là qui aurait très bien pu partir à la poubelle. Tellement
ce qui était le cas souvent de beaucoup d'œuvres. Oui.
Voilà, ce rapport au regard extérieur, ce rapport à l'autre qui est sans doute typique d'une certaine façon de beaucoup d'œuvres de cette collection, qui n'est pas narcissique du coup, c'est, enfin, de la part des auteurs, comme peut l'être peut-être beaucoup d'œuvres d'art, d'artistes professionnels, entre guillemets, qui ont besoin de s'adresser à l'autre, qui ont besoin de ce qui est appréciable. Alors, mais voilà.
Non, il y a trois choses dans D'accord. ta question, en fait. Pour ouais. moi, c'est que quand tu parles de la fragilité du support, par rapport à l'exposition, s'il y a des exemples à donner, moi, je pense immédiatement à l'œuvre de Martine Ramirez, mm-hmm. qui montre une espèce de vierge mexicaine, où on voit clairement que c'est un papier qui a été reconstitué des enveloppes différentes. Il est dommage que ce n'est pas encadré recto verso, l'œuvre, mais on voit la fragilité du papier, en fait, qui est collé ensemble avec sa salive.
Ouais,
et le porridge d'avoine, en fait, parce que c'était... C'était ce qu'on lui donnait à manger à l'hôpital ouais. psychiatrique où il a été interné dans les années 50. Mm-hmm. Il y avait un de ses soignants qui disait aussi qu'en fait, il était en train de dessiner sous la table parce que c'était le seul espace où il pouvait être tranquille. En fait, les hôpitaux étaient surpeuplés par les soldats qui sont revenus de la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis et il n'y avait aucun atelier de création. En fait, uh-huh. il était sous la table. Donc, c'était ça, ce papier. Il y a aussi quelque chose de très marquant, c'est George Widener. C'est la personne qui travaille avec les calendriers, où on voit que sur la plupart de ses premières œuvres, il a utilisé les nappes des restaurants, en fait, qu'il a collées ensemble. Pareil, c'est aucune volonté artistique, c'est juste le manque des moyens de bord, parce qu'il n'avait pas les moyens de s'acheter du vrai papier. Les cartons de Georgie, au départ, en fait, la personne qui fabrique les avions, bah, il les trouvait dans des poubelles, parce que pareil, il n'avait pas les moyens. Donc il n'y a pas d'intention esthétique, c'est vraiment la nécessité de créer. Ce que tu dis par rapport à l'égard de l'autre...
Et en même temps, ça c'est révélateur aussi, c'est-à-dire que ces cartons, ils avaient ça à nous dire quelque part, et on ne le voyait pas tant qu'ils n'avaient pas été mis en forme.
Il y a beaucoup de vieux objets recyclés, objets... Judith Scott, elle volait les objets, enfin elle volait entre guillemets dans l'atelier que des gens ont posé, ça pouvait être les clés de la voiture, ou un autre truc qu'elle a pris okay. et qu'elle a mailloté et qu'elle cachait à l'intérieur de ses bobines. Donc ouais. c'est vraiment des objets quotidiens, ouais. des objets qui étaient faciles d'accès. Ouais. Wölfli, il se plaignait aussi qu'on lui donnait au départ un crayon par semaine. Il n'avait pas les crayons en couleur, il n'avait pas d'accès à ses crayons, donc il le dit dans ses écrits. Donc il y a ça, le rapport à l'autre...
Parce que, par exemple, typiquement, il y en a qui sont signés, en fait, quand même pas mal, mais il y en a aussi beaucoup qui sont anonymes, finalement. Ils ne se soucient pas qu'on sache que c'est eux qui ont fait ça.
Non, la signature, c'est très complexe aussi. Ouais. Le rapport à l'autre, c'est sûr que ce n'est pas quelque chose qui est destiné à un grand public. Souvent, il s'adresse à un autre avec un grand A.
C'est encore les choses magiques.
Un au-delà avec ouais. lequel ils communiquent, en fait, ou ouais. les injonctions de quelque chose qu'ils perçoivent et à quoi ils répondent à travers les œuvres. Mm-hmm. Ce qui est aussi important de dire souvent que l'œuvre change complètement quand il y a le regard de l'autre, c'est-à-dire d'un passeur, de quelqu'un qui était à leur côté et qui les a accompagnés et qui a su voir leur création. Ça, c'est très, très important. Et on l'oublie souvent, le rôle des psychiatres ou des gens qui animent des ateliers, parce qu'ils ont un grand rôle à jouer. Pour ces gens, que ce soit Morgenthaler dans le cas de Wölfli, sans qui les œuvres ne seraient pas là, ou Jacqueline Porret-Forel pour Aloïse, pareil, c'est le regard qu'elle apportait à ses œuvres qui font que il y a une adresse, mais c'est pas une adresse d'un public général ou d'un galériste, ou enfin elle s'adresse pas à nous en tout cas. Donc ça c'est très important. Ouais. Pour ce qui est de la signature, t'as raison.
On peut peut-être revenir ou après, mais sur ces intermédiaires, parce que ça pose aussi des questions éthiques, ce qui sont intéressantes aussi à développer, mais peut-être on peut finir sur l'histoire de la signature aussi et de l'anonymat.
Pour la signature, en fait, souvent ce sont des œuvres qui sont pas signées, qui n'ont aucun titre. Après ça, la problématique du nom, en fait, il y a parfois, ce sont des signatures qui sont démultipliées. On s'en aperçoit, on peut s'en apercevoir par exemple dans le cas de Rizzoli, mais c'est pas une signature dans le, enfin oui. Comme nous on le perçoit, par exemple pour Luboš Plný, cet artiste tchèque dont vous avez l'image du Christ ici, lui, en fait, il a choisi de signer par un tampon parce que comme il a toujours voulu faire les études de l'art, il n'a jamais eu l'accès à l'Académie des Beaux-Arts, bah, il a travaillé comme modèle académique pour des étudiants. Et il a demandé en fait d'être reconnu en tant que modèle académique parce qu'il disait que c'était beaucoup de travail et investissement personnel. Il a écrit une lettre au ministre de la Culture. Qui n'a pas voulu répondre, mais le recteur de l'académie a dit qu'il était absolument d'accord. Il a eu un diplôme, comme les autres étudiants, et il s'est fabriqué ce tampon, il dit Luboš Plný, modèle académique, par lequel il signe, enfin, entre guillemets, ses dessins. Donc, il y a des signatures différentes, ou, différentes de ce qu'on entend d'habitude sous le mot signature.
C'est ça.
Alors, je crois que c'est Luboš Plný qui est justement l'auteur de ses œuvres avec ses cendres, là.
Alors, la plupart des gens s'arrêtent à ces œuvres-là, en fait.
Ah oui, c'est ce qu'on a fait.
Particulièrement marquante, quand même. Ouais.
Je ne sais pas si des gens lisent la biographie ou s'ils comprennent de quoi il s'agit. En fait, dans l'exposition, il y a deux œuvres de cet artiste qui s'appellent Père et Mère. En fait, quand ses parents sont décédés, il a récupéré leurs cendres. Il les a mis au milieu de la feuille du papier. Il a fait une espèce de spirale où il compte les jours de leur vie. Où il a mis en rouge uniquement la date de sa naissance. Donc, quand on regarde bien, bah, c'est des grandes spirales avec le jour de sa naissance qui est mis en rouge.
C'est bien le jour de sa naissance qui est en rouge.
Oui, on se demandait justement. Oui. Et puis, il y a la couleur rouge souvent qui apparaît dans ses œuvres. Juste à côté, il y a une œuvre. Parce que comme c'est quelqu'un qui s'intéresse au fonctionnement de son propre corps et au corps des autres.
C'est très anatomique.
C'est vraiment il est allé jusqu'à devenir fossoyeur dans sa vie, en fait, parce que c'est vraiment l'organisation du corps qui le préoccupe. Et il y a une œuvre rouge avec un chien qu'on peut voir, où en fait, il a été mordu, je crois, dans les années 90 par un chien et on avait peur qu'il ait eu la rage. Il a passé une semaine à l'hôpital et on peut voir coller en fait sur cette œuvre les petits tampons qu'on met sur les piqûres avec son sang qu'il a collé, où il décrit jour après jour qu'il a passé à l'hôpital. Enfin, c'est une espèce de journal intime aussi, tout ça, c'est à travers l'organisation de son corps.
Alors moi j'ai découvert des artistes que je connaissais pas. J'ai également découvert des formes d'artistes que je connaissais comme Wolf Lee ou d'autres comme Zdeněk Koshek. Là j'ai vu des œuvres jaunes, enfin à dominante jaune que j'avais jamais vu ailleurs. Et concernant Wolf Lee, j'avais jamais vu d'œuvres en noir et blanc, il me semble.
Alors ce sont les premières œuvres. En fait, cette œuvre aurait fait partie d'un des premiers cahiers de Wolf Lee. En fait, c'est le départ, les œuvres en noir et blanc. Enfin, parce qu'après ça, il est passé en couleur. Mais c'est vrai, c'est une des premières œuvres. Je crois, elle date autour de 1908. Et c'est une œuvre absolument incroyable parce qu'il superpose plusieurs regards sur la ville de Berne. Enfin, on peut la voir comme la vue d'oiseau et une vue frontale sur le fleuve qui passe par la ville avec une espèce d'anguille géante. Et ça peut être une chute ou une espèce de spirale. En fait, ça raconte son histoire personnelle en condensé dans une seule œuvre. Aussi à travers donc l'image, les écrits et puis ces partitions musicales qui sont loin d'être uniquement des éléments ornementaux mais qui ont été analysés par des musicologues et qui sont des vrais marchés qui ont été joués à la campagne à son époque. Enfin, c'est ça ce qui est passionnant, c'est que cette seule œuvre en fait est un espèce de condensé de toute son œuvre
oui,
en fait.
Ça. Ça totalise après.
Et on n'a pas la possibilité, en fait, le regard humain n'a pas la possibilité d'entrevoir ou entrepercevoir, en fait, la complexité d'un seul coup de tout ce qu'il a mis là-dedans. Alors, c'est d'une complexité absolument incroyable.
Un autre artiste, moi, que je ne connaissais pas, par contre, là, qui m'a impressionné, c'est Jean-Pierre Druzet. Ce qui m'a fait marrer, c'est qu'il a carrément un tampon. Alors, on parlait de la signature. Lui, c'est un tampon sur lequel il y a marqué inventeur.
C'est un mot qui apparaît souvent, oui.
Ouais. Et alors, ça, une de ses inventions.
Ça, c'est dans une salle assez. Moi, je trouve. Ah oui, super. Pour moi, en tout cas, qui est l'hétérotopie.
Oui, c'est ça. Donc, il y a le traceur électromécanique, bon, ça, ok. Il y a la machine à écrire avec l'au-delà également.
Oui.
Et alors, c'est des œuvres, pour ceux qui ne les connaissent pas, qui sont du coup comme des dessins techniques extrêmement sophistiqués, extrêmement précis et en même temps extrêmement délirants. Parce que,
bah, c'est un scientifique. En fait, ça interroge les rapports entre l'art et la science. C'était ça le but de cette salle, de déconstruire le... Enfin, c'est un peu facile de le dire comme ça, mais de déconstruire les mythes du positivisme scientifique. C'est vrai, il y a les œuvres de Perdrisset avec cette machine qui peut communiquer avec l'au-delà, en fait, qui peut aussi être située dans la ligne du spiritisme, parce que ce n'est pas le premier artiste dans la Brute qui essaye de faire ça. C'est qu'il y a les œuvres médiumniques, ou dites médiumniques, des gens qui ont fait la même tentative, c'est de communiquer avec les esprits.
Et d'autre part, non seulement il y a cette espèce de peut-être critique du positivisme, mais il y a aussi, moi je l'ai vu de façon peut-être plus positive aussi, ça montre la puissance d'expression esthétique de ce langage technique, quoi. C'est-à-dire que les gens l'utilisent peut-être pour un but utilitaire, mais ils ne se rendent pas compte peut-être de la potentialité expressive, émotionnelle de cette chose-là, qui du coup là ressort vachement, parce que oui, la machine, ça fait rêver en tant que telle, mais en même temps on est frappé par la finesse, surtout qu'on vient de traverser l'exposition, donc on a ce regard-là d'être sensible à cette virtuosité de représentation visuelle, etc. Et du coup on voit aussi, je crois, les œuvres réellement techniques d'un autre regard à travers.
Encore une fois, ce sont des œuvres qui n'ont pas été faites en tant qu'œuvres d'art. C'est le collectionneur ou les regardeurs qui décident que c'est une œuvre d'art. Mais c'est vrai que pour ces artistes, au départ, c'était, que ce soit Perdrisset ou même Widener, c'est une démarche qui se veut scientifique. Koschek, qui, avec ses schémas météorologiques, parce que lui, il tentait de maîtriser le temps météorologique sur la planète pendant 2 ans, enfin, parce qu'il était convaincu que le moindre geste de sa main pouvait créer une sécheresse, en fait, ou une pluie. Donc il était en train de noter tout ça. C'était un geste qui n'était pas destiné, en fait, ce sont pas des... Enfin, il n'y avait aucune intention esthétique au départ. C'est uniquement nous qui pensons, qui trouvons ça beau.
Mais on n'a pas tort, mais c'est pas peut-être dans le regard. Encore qu'il devait y être sensible aussi. Enfin, on voit bien quand même qu'il y a... Dans l'agencement des formes, même si ce n'est pas un projet très intentionnel ou très conscient. Mais ceci dit, il y a quand même des caractéristiques aussi de beaucoup d'œuvres. Je trouve qu'ils sont très dans le détail. Ça rejoint aussi cette espèce de processus de création qui n'est pas destiné spécialement à être une composition. C'est que du coup, j'imagine que ça se fait... par un espèce de foisonnement où on a dans le détail, et puis ça se développe. Enfin, j'ai beaucoup de choses, j'ai l'impression qu'elles sont bâties comme ça, s'autogénèrent, enfin, je sais pas comment
C'est vrai pour certains, pour d'autres, quand tu regardes par exemple Augustin Lesage, on dit qu'il a toujours commencé dans un coin, je crois c'est en haut, à gauche, alors que quand tu vois la composition, c'est extrêmement c'est symétrique et géométrique. Mais tu as tout à fait raison là-dessus. Il y a un côté foisonnant, en fait, d'un agencement qui se fait comme une espèce d'effet domino ou par ricochet, comme disait Aloïs. Elle a parlé de ricochet solaire. C'est vrai, ça fonctionne comme ça.
Et du coup, ça donne des détails très, très fins. En général, il y a une facture des œuvres, je trouve, qui est exceptionnelle. C'est-à-dire que...
Il y a aussi autre chose, en fait, qu'on avait envie de mettre en scène dans une exposition qui a été organisée à travers ce programme de cartes blanches à Montreuil. C'était cette notion que le temps, en fait, qui pour nous, en fait, qui s'accélère tout le temps, pour ces artistes-là, ils peuvent passer un an sur un dessin. Il y a cette japonaise qui s'appelle Chiyuki Sakagami qui met du blanc sur le blanc. Je ne sais pas si vous avez vu, en fait, c'est des petites œuvres qui sont aussi au début de l'exposition, dans le chaos. Elle s'appelle Chiyuki Sakagami. Elle met des gouttes de l'huile blanche sur la feuille blanche, ce qui fabrique une texture, mais parfois on peut passer à côté parce que c'est pas réellement visible. Et elle met un an pour chaque dessin, ce qui met un désespoir total son galériste, parce que c'est pas très efficace. Mais c'est vrai que le souci de temps, d'efficacité et de production n'est absolument pas présent dans ces œuvres.
Et alors du coup, peut-être qu'on peut reparler de la question de l'intermédiaire, puisque là, c'est une artiste qui a une galeriste, c'est rare dans l'art brut quand même. Donc en général, l'intermédiaire, ça peut être un médecin ou ça peut être direct. Comment ça se passe en fait?
Souvent, il y a un intermédiaire et c'est souhaitable parce qu'on veut, par souci d'une éthique, éviter le contact direct. Aujourd'hui, il y a des galeries, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Il y a la galerie de Christian Berst à Paris. Il y en a d'autres. Il y a la galerie de Susanne Sander en Allemagne, qui est assez connue pour un travail depuis des années. Donc il y a des galeries qui font un travail sérieux. Il y a aussi d'autres intermédiaires. Ce sont des ateliers qui sont organisés d'une façon très transparente. Par exemple, Creative Growth à Auckland, en fait, où était Judith Scott, d'autres artistes, Atelier Goldstein en Allemagne. Maintenant, le souci, c'est comment faire pour que la personne qui a fabriqué l'œuvre perçoit ce qu'on paye pour l'œuvre, ce qui est très problématique par rapport à la loi aussi, parce qu'en fait, des gens qui sont sous la tutelle de quelqu'un d'autre et qui perçoivent une retraite d'invalide de l'État, c'est, tout d'un coup, ils se posent la question, mais ils sont des artistes qui peuvent gagner beaucoup d'argent et comment faire pour que l'argent leur revienne. Ça, c'est une question que se posent concrètement des gens qui animent des ateliers aujourd'hui pour trouver un système de... pour trouver un système qui soit bien pour les artistes.
Donc il y a cette question-là, mais il y a aussi la question peut-être du rapport à l'œuvre, au sens où ce qu'ils investissent, dans la mesure où c'est presque une part d'eux-mêmes, enfin, peut-être qu'un artiste, tout artiste peut dire ça, mais enfin, le professionnel, il se prépare à se séparer, à abandonner son œuvre.
Ouais, c'est très compliqué.
Alors que peut-être que d'autres, justement... d'ailleurs, ça donne peut-être quelquefois une forme d'esthétique où il y a des choses qui restent très brouillons parce que finalement, ce n'était pas le but d'aboutir à quelque chose, mais le but de...
Non, ça fait partie du quotidien pour eux aussi. Voilà, mais après ça, en fait, je ne sais pas quelles sont... Comment dire ? Par exemple, Judith Scott, quand une œuvre était finie, elle ne pouvait pas parler, elle était sourde, elle n'avait pas l'accès au langage, mais il y avait un geste de main très clair qui disait « l'œuvre est finie, vous pouvez m'en débarrasser ». Elle se lançait directement dans une autre, elle recommençait. Après ça, on a fait la démarche de faire venir Hans-Jörg Görgi, qui est la personne qui a fabriqué les avions dans l'exposition, parce qu'il voulait voir sa réaction par rapport à l'installation. On s'est dit peut-être il ne va pas être content, il va y avoir trop de monde, ça va le perturber, il est fragile, est-ce que c'est une bonne idée ? La personne qui anime l'atelier, Christian Coutitio, a organisé ce voyage, donc elle était d'accord et il était mais extrêmement touché par le geste, et il disait en allemand, il n'y a que de l'amour. Donc il a perçu l'intérêt, la reconnaissance et l'amour que les gens lui portent à travers cette œuvre. Donc
la salle, je pense qu'il a c'est impressionnant. Donc c'est la première occasion de voir ces œuvres qu'on n'a jamais vu.
Tout le temps à la Maison Rouge, c'est la première fois que je vois dans cette salle précise une telle installation. Et c'est vrai que c'est
Escadrille.
Une escadrille. Et puis on surplombe l'œuvre et on peut après y rentrer. Mais c'est impressionnant.
Oui, c'est cette W, c'était l'intention. T'as raison. Enfin, on a une autre perception quand on s'approche. Et puis le côté du haut. Mais en fait, c'est aussi pour répondre à la question qu'on nous pose souvent, est-ce qu'il faut montrer ou pas montrer ? Moi, je pense que la question se pose différemment pour des psychiatres ou pour des gens qui sont en direct contact avec leurs patients. Nous, à partir du moment où on acquiert une œuvre, on a envie qu'elle soit vue. Mais on le fait, bien évidemment, en discussion avec les artistes ou les personnes qui nous ont donné l'accès à ces œuvres. Mais c'est une question qui est importante et
On va parler de psychiatrie. Je propose de faire une pause avant, justement, avec en écoutant Pascal Labbé, qui était venu nous voir en septembre dernier, dans une émission dans laquelle était présente également Anne-Marie Dubois de l'hôpital Sainte-Anne. Et Pascal Labbé nous expliquait qu'elle avait réalisé ce disque avec des patients de l'hôpital psychiatrique de Montpellier. Donc, je vous propose d'écouter un extrait de l'album Les Lèvres Nues. Le morceau s'intitule « Je vais les rejoindre ».
Pam 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 p
Radio Libertaire, la voix de la Fédération Anarchiste 89.4, vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Barbara Safarova pour nous parler de l'exposition ABCD Bruno de Charme actuellement à la Maison Rouge jusqu'au 18 janvier prochain.
Alors moi j'avais une question, on vient d'écouter Pascal Labbé avec les patients de l'hôpital psychiatrique de Montpellier. Alors moi, je suis allé voir justement un petit peu la vie, surtout de ceux que je ne connaissais pas, parce qu'il y en a quand même pas mal que je ne connaissais pas, bien que je suis vraiment féru d'art brut et que je vais voir les expositions depuis mal de temps maintenant. Et quand même, il y a pas mal de gens issus des hôpitaux psychiatriques, hein, des malades, des fous, comme dirait Anne-Marie Dubois. Or, dans mon idée, il y a quand même tout un pan de l'art brut et j'ai l'impression qu'il n'est pas mis en évidence en ce moment, hein, pas seulement là, mais un peu partout. C'est les gens qui n'ont pas eu accès à la culture, mais qui ne sont pas forcément fous. Hein. Je parle dans les campagnes, dans les... Et je ne sais pas ce que tu penses de ça, parce que effectivement, j'ai l'impression qu'on réduit ce temps-ci, l'art brut, à l'aspect psychiatrique.
Alors, il est vrai que pour la collection, en fait, le cœur de la collection ABCD, ou disons que les prédécesseurs que Bruno cite souvent, ce sont des premiers psychiatres. Yeah. C'est des collections psychiatriques de début du XXe siècle. C'est vrai qu'il y a quelques œuvres historiques qui sont aussi dans l'exposition, comme ces petites broderies qu'on voit plutôt au départ, qui ont été, qui font partie des illustrations du livre de Marcel Reja, L'Arche et les Fous, de 1907. Il y a quelques œuvres très anciennes, donc des premières collections psychiatriques. Maintenant, il est vrai qu'il y a tout un pan de création qui vient des ateliers. Là, je parle surtout du Japon.
Ah oui.
Qui pose une question aussi, est-ce que l'art brut au Japon veut juste dire la création d'un des ateliers ? Je ne le pense pas. Mais après, il faut avoir l'accès ou voir où se trouvent d'autres artistes. C'était une intervention d'une amie à nous qui s'appelle Rena Kano, qui essaye de repérer d'autres types de marginalité au Japon. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui se font dans des prisons, par des gens qui sont enfermés, isolés pendant très longtemps. Il y a des choses qui se font à la campagne. Après, oui, il y a plein d'autres lieux d'isolement, de solitude que des hôpitaux psychiatriques. Aujourd'hui, de toute façon, les hôpitaux psychiatriques, les psychiatres disent eux-mêmes qu'on essaye la plupart du temps de... Il y a les traitements ambulatoires, en fait. Les séjours pendant des années, ça n'existe quasiment plus, c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc, il n'y a plus cette isolation-là. Mais il y a d'autres types d'isolation dans des grandes villes aujourd'hui. Quand on se balade à Paris le soir, je pense que déjà, en dérive, on en voit énormément. Ou des gens qui dorment dans des cartons sur lesquels il y a des dessins. J'en ai vu un près de la mairie de 10e l'autre jour. Il y a... Ça, c'est... Oui, c'est
du point de vue du collectionneur, moi, ça m'intéresse aussi. C'est-à-dire, la motivation... J'ai l'impression qu'il y a un peu quelque chose qui est de l'ordre de la quête du trésor, c'est-à-dire d'aller chercher quelque chose que justement qui est caché, qui est enfoui et qu'on veut découvrir, alors que peut-être le collectionneur de peinture, il connaît aussi ses artistes, etc.
C'est souvent le fruit du hasard, parce que par exemple, on a fait tout un voyage en Amérique du Sud. Quand on est arrivé au Brésil, on savait qu'il y avait des œuvres qui existaient de l'ancienne collection de Osorio Cesario, qui était un psychiatre dans les années 20-30 à Sao Paulo, mais la collection était complètement dispersée. Donc tu pars à la recherche des œuvres, tu rencontres des gens qui te disent « il faut peut-être que vous parliez à celui-là ». Et comme ça, quand tu as le temps, tu peux remonter le fil et trouver le trésor. Parfois ça ne marche pas. C'est une fois sur 100, ça aboutit sur rien. Mais c'est sûr que ce n'est pas les galeries d'art, c'est pas déconseillé. Il y a aussi des choses dans des galeries d'art, bien évidemment. Il y a aussi des choses dans des ventes qu'on peut trouver comme ça. Mais souvent, c'est le hasard, la rencontre. Et le désir, c'est ce que dirait Bruno, c'est que le désir oriente le regard. C'est que... Ouais. Après ça, les choses se font. Tu penses qu'une œuvre a été pour toi, et puis 30 ans plus tard, tu retombes sur l'œuvre qui est là au bon moment. Quand on a des moyens de pouvoir l'acquérir. C'est...
Tu voulais parler encore un petit peu de l'exposition, Laurent ?
Moi, peut-être un peu en tant qu'artiste aussi, je suis frappé par le rapport à l'étrangeté et à l'évidence de beaucoup d'œuvres. C'est-à-dire que nous, on peut les trouver souvent bizarres ou difformes, etc. Et en même temps, on ressent que il y a quelque chose de l'évidence fort, de la nécessité pour leur création. Et en même temps, justement, en tant qu'artiste, nous, on va rechercher cette, plutôt une forme de bizarrerie ou d'inouï pour le musicien, etc. Donc il y a un rapport qui est assez particulier, j'ai l'impression, enfin, auquel je suis très sensible. C'est-à-dire qu'il nous donne à voir des choses extraordinaires au sens propre, quoi. Comme si ça allait de soi, quelque part. Je trouve ça fascinant.
Je pense que c'est quelque chose qui nous parle à nous, à tout un chacun, mais sur un autre niveau. Enfin, comment dire, c'est qu'on s'y reconnaît, malgré le...
Bien sûr, c'est pour ça que ça nous touche. Je pense que sinon, on y resterait indifférent. C'est qu'on sent qu'on est concerné par... parce que le propose. Mais en même temps, elle nous échappe aussi. C'est aussi qui fait sa force.
Après, effectivement, il y a les visages morcelés. Je pense, par exemple, à Tilio Crescenti ou d'autres, ou même Anselme Boisvive, qui montre les corps hérissés. Je pense que ce sont peut-être des sensations corporelles qu'on a pu tout ressentir ou entrevoir un moment ou des moments où la réalité nous échappe. Et puis du coup, on est confronté à quelque chose qui surgit tout d'un coup. Et ces artistes ont le pouvoir d'avoir capté ou d'avoir su capter ce moment d'étrangeté. Ouais. Dans le quotidien ou dans le rêve.
C'est ça. Et moi, enfin, personnellement, ça me permet justement de développer ma sensibilité au monde. C'est-à-dire, en voyant des choses que je n'ai jamais vues ou percevant ces choses-là, je peux les reconnaître ailleurs ou je peux les transformer ou me les approprier.
C'est aussi quelque chose qui fait sauter beaucoup de frontières. Il y a un côté
toutes les sensations.
Engagées, enfin, je pense la couleur, le son ou le côté sonore, le toucher. En fait, c'est... Tout ça, c'est
fabrique très.
Enfin, ça sollicite tous nos sens, ces œuvres. C'est aussi. Enfin, tu peux entendre quasiment un son quand tu regardes certaines œuvres, je pense.
Tu parles de son. On a toujours du mal à trouver des illustrations sonores, nous, pour les émissions. Comment t'expliques qu'il y ait moins d'intérêt pour l'art brut en musique, puisque après tout, puisqu'il y a des gens qui dessinent, on peut bien imaginer que des gens se soient enregistrés.
Je pense que c'est extrêmement difficile de se confronter à ces enregistrements sonores. Je pense que c'est extrêmement difficile pour des gens qui écoutent de les supporter. Parce que, par exemple, c'est très important déjà de lire les choses à haute voix. Par exemple, des écrits des gens comme Odinos ou Aimable Jaillet. Mais comme... Il y a un aspect sonore, c'est quasi à la frontière de soutenable. Enfin, ça devient insoutenable au bout de quelques minutes. Parce qu'il y a cette matérialité du son qui guide, c'est pas la signification. Et du coup, c'est très difficile. Après ça, il y a peut-être moins d'intérêt des psychiatres. En fait, souvent, on décrit le comportement des gens dans des dossiers médicaux. Le fait qu'ils jouent un instrument ou le fait qu'ils produisent des sons ou qu'ils se déguisent ou qu'ils découpent les draps. Donc, on le décrit. Mais c'était pas enregistré, en fait. Donc, il y a tout un aspect...
C'est drôle que tu parles de matérialité. Je te rejoins complètement là-dessus, effectivement. C'est-à-dire que ça nous touche au plus profond. Enfin, moi, c'est mon cas. Les sons vont mettre en vibration des choses très, très intimes. Mais je pense qu'aussi, précisément, je pense qu'aussi bien ils devaient jouer de la flûte, aussi bien, comme le rapport à l'autre n'est pas forcément la chose la plus importante, cette idée de s'enregistrer, elle est un peu incongrue. C'est-à-dire que... Quand tu fais un objet, mettons que tu l'abandonnes, il reste l'objet. Ouais. Quand tu fais une flûte, mettons que tu l'abandonnes d'en jouer, bah, il ne reste plus rien, effectivement. Y compris la plupart des musiciens, bah, la musique n'existe que dans le temps de leur exécution. Et donc, elle est à la fois très puissante pour nous toucher très profondément et à la fois très fragile parce que c'est une vibration de l'air et que dès qu'on arrête de jouer, il n'y a plus rien. Et que du coup, c'était ça aussi. Les psychiatres pouvaient garder des objets, mais ils ne pouvaient pas garder, même s'ils avaient entendu... C'était leur mémoire, mais c'était...
Il y a très peu de documentation sur ce type de geste, en fait, ou très peu de photos qui enregistrent ce type de geste. Il y a qu'à partir des années 50 ou 60, c'était Arno Freiner qui le disait, que des gens ont compris à travers l'art de l'époque que ça avait une valeur aussi, que quelque chose à quoi on n'a absolument pas prêté d'attention, et tous ces dessins-là, effectivement, faisaient partie des dossiers médicaux, où les psychiatres se les échangeaient. Toute cette partie-là est restée cachée, mais je pense qu'on va essayer de plus en plus de mettre en lumière... cette partie-là de sonore ou du geste ou du rituel ou de... Enfin, je ne vais pas utiliser le mot performance parce que ça n'a pas de sens dans ce contexte-là, mais c'est de cet ordre-là.
Et alors peut-être aussi, c'est une question que j'ai, que du coup, la musique, pour moi, il y a aussi, à travers cette évanescence et même l'organisation des sons, assez facilement des choses qui peuvent être peut-être un peu conceptuelles, enfin je veux dire... les hauteurs de son qui s'organisent, etc., d'une façon ou d'une autre. Alors que l'art brut, c'est souvent à l'opposé de ça, c'est une espèce d'immédiateté, et y compris, par exemple, moi je voulais en profiter pour parler de la salle où il y a les jeux avec le langage. J'étais vraiment passé pas mal de temps là, parce que j'adore me perdre dans les niveaux de représentation, c'est-à-dire que c'est des mots qui veulent dire quelque chose, en même temps qu'ils veulent rien dire, en même temps qui sont beaux à voir, tels qu'ils sont dessinés. Je le prends à plein de niveaux, ça se brouille et c'est fascinant. Enfin, moi, j'étais fasciné par ça.
Je pense qu'il faut s'autoriser, plonger dedans. En fait.
C'est un plaisir énorme.
Et c'est quelque chose qui casse effectivement toutes les frontières entre l'image et l'écriture, parce que tu t'aperçois souvent, comme tu dis, que l'image se transforme en écriture chez certains, comme dans le cas de Fernand Desmoulins, qui est un artiste qui a eu une très courte période où il a fait des écrits automatiques et l'image devient écriture. Et puis, tu as aussi les mots qui ont une certaine signification. Mm-hmm. Par exemple, Dwight McIntosh, qui est l'artiste de Creative Growth, qui fait ce qu'ils appellent des voices, des garçons, qui sont en fait une espèce de figure avec une grosse chevelure, comme ça, et avec des pénis en érection. Mm-hmm. Et en fait, il y a l'écriture en haut de l'image, où il commence avec le mot boy 6, et puis après ça, il y a plus, tu peux plus rien lire.
Et là, pour du coup, on peut tout imaginer, tout entendre.
Il y a Harald Stoffers qui commence sa lettre à chaque fois en s'adressant à sa mère, Libemouti. Mm-hmm. Tu peux lire, mais en fait, comme c'est écrit sur des lignes, comme si c'était une partition musicale, tu te laisses porter par le rythme plutôt que par la signification, en fait. Mm-hmm. Ce qui veut dire, au fond, est moins important que le rythme du dessin. Donc oui, ça fait sauter toutes les frontières. Il y a une espèce de rythme corporel, je ne sais pas si c'est un bon mot, mais en tout cas, ou de respiration pour certains. Par exemple, même les 30 de Ramirez, le grand train qui est quasi abstrait au départ, il y a une espèce de quelque chose du rythme, de respiration qui fait qu'on le ressent, on s'y retrouve sans pouvoir mettre des mots dessus. Ouais.
Et après, oui, et alors ça, moi, justement, d'un point de vue musical, je trouve ça hallucinant parce que c'est polyphonique, c'est-à-dire qu'on voit la même chose en même temps de plusieurs endroits. En fait, c'est incroyable parce qu'en général, il y a un point de vue, puis après, il peut se passer des tas de choses.
Là, c'est superposé en même temps, complètement.
C'est incroyable, c'est une forme de pensée pour moi.
C'est ce que j'essaie de te dire par rapport à Wolfly aussi, c'est qu'il y a tellement de. Oui, c'est instantané en fait, ça te raconte et ça sollicite énormément de sens. Après ça aussi, il y a des artistes qui sont des artistes qui ont une connaissance de l'art comme Unika Tsurne. Je ne sais pas si tu te souviens du portrait, c'est quelqu'un qui a travaillé sur les anagrammes, en fait, qui décomposait la langue et qui faisait des dessins anagrammatiques. Uh-huh. On ne le voit pas dans l'exposition, mais pareil, ça joue sur l'image et sur les mots, en fait, l'un se renvoie sur l'autre, un miroir. Donc du coup, ça devient une espèce de labyrinthe où tu peux te balader à l'infini, mais sans aucune réponse possible du compte. En fait, c'est pour le plaisir, pour la jouissance de la balade.
Exactement.
Mais tu n'auras pas, en fait, une espèce de message défini à la fin. Ça, je pense que c'est la beauté. C'est la beauté de l'art brut. C'est sans fin, en fait. Qu'on peut passer devant le même dessin.
Ça reste une énigme.
Je propose, on parlait de musique, allez, on va écouter un extrait, pas un pan entier, des expérimentations de Jean Dubuffet, tout de même. Puis moi, j'aurais une ou deux questions sur l'art brut, en plus général, après.
Thank you.
Donc nous venons d'écouter dans les oreilles libres les enregistrements réalisés par Jean Dubuffet en 1966. Ces expérimentations sonores avec, je trouve, une inventivité absolument exceptionnelle. Ça fourmille de trouvailles.
Puisqu'on parlait de la musique et de l'art brut. Mm-mm. Alors moi j'ai une question... aux collectionneurs, pour la collection ABCD, qui, on l'a dit en début d'émission, qui n'est pas nouvelle, qui remonte à... C'est un travail de longue haleine. Et j'aimerais savoir ce que tu penses du fait que l'art brut soit finalement très à la mode en ce moment. Est-ce que ça change quelque chose pour vous dans votre rapport à... Enfin, moi, j'imagine, tu vois, on promeut des musiques dans notre émission. Si tout à coup, elle devenait à la mode, on aurait forcément quelque chose qui changerait pour nous, quoi. Mmh. Est-ce que c'est le cas pour...
Pas pour notre travail. En fait, Bruno dirait que maintenant, comme il y a de plus en plus de collectionneurs de l'art contemporain qui s'intéressent à l'art brut, ça change des choses pour lui parce qu'il ne peut plus acquérir des œuvres qui étaient faciles à acquérir. Il n'y avait personne il y a 20 ans, donc du coup, leur prix n'était pas du tout le même comme aujourd'hui. Ça veut dire qu'il fallait chercher de nouveaux artistes, ceux qu'on ne connaît pas encore. Donc ça change ça. Maintenant, ça change rien par rapport à notre travail à nous. Enfin, on va continuer à essayer de trouver de nouveaux artistes, réfléchir sur leurs œuvres, faire des films,
oui,
et faire en sorte que ça soit vu.
Le mentionner, c'est important. Je crois qu'il y a dans une salle de l'exposition qui est une salle de projection. Dans lequel effectivement voilà.
C'est la salle des coiffes de Antoine de Galbert. Ouais. D'ailleurs, moi, j'ai pas pu voir la fin du film puisque Barbara faisait une conférence, donc on s'est fait jeter en plein milieu du truc. Donc j'ai oui, alors c'est
un travail de cinéaste.
Pour ce que j'en ai vu, c'est vraiment là on a des explications, notamment le premier, je crois qu'on voit c'est Koschek. Et là, on voit bien qu'il y a un petit problème quand il dit que, d'ailleurs, ça doit être très pesant pour lui, que c'est lui qui
porte la responsabilité pour la planète. Oui,
tout ce qui se passe dans le monde, c'est lui, quoi. Ça,
oui,
ça
c'est
lui, quoi.
C'est une vraie question éthique. En fait, lui, il se sent responsable pour tout ce qui se passe sur la planète, ce qui l'empêche de dormir et de manger quasiment pendant 2 ans. En fait, il est arrivé dans un hôpital psychiatrique parce qu'il était complètement épuisé par cette tâche.
Il y a une catastrophe, c'est lui. Ouais.
Une catastrophe, en fait, c'est la catastrophe de son propre anéantissement, mais de l'anéantissement de toute la planète, en fait, parce que le microcosme et le macrocosme sont la même chose pour lui. Donc, oui, il y a ce film-là, mais en fait, c'est assez marrant d'aller tourner les portraits de ces artistes parce qu'on ne sait jamais où ça nous amène. En fait, il n'y a rien de préparé. En fait, ce n'est pas des gens qui ont un souci de mise en valeur ou de mise en scène, qui ne se soucient pas du tout de leur image après, qui répondent sur les questions où ils sont dans une espèce de monologue. Et du coup, on se laisse porter par ce qu'il nous propose et il n'y a aucune mise en scène possible. Il faut juste les suivre. Donc, ce n'est pas du tout le même travail comme si on faisait un documentaire sur un artiste professionnel ou sur un artiste court.
Là, le nom de... C'est Rouge Ciel, c'est ça, ce qui est diffusé. Et tu nous parlais de tournage. Est-ce que tu continues à faire des films?
Oui. Enfin, là, on est en train de monter un film. Donc, le dernier en date, c'était Hans-Jörg Görgi. En fait, c'était une espèce de conversation entre lui et la personne qui s'occupe de l'atelier, Christian Kuticho, parce qu'ils forment un vrai couple assez inhabituel. Et c'était très beau comment... Parce que c'est elle qui lui a permis de fabriquer ses avions dans cet atelier. Avant, ils étaient jetés chez les gens chez qui il habitait. Donc ça, c'est le dernier. Et maintenant, on est en train de monter un film sur Melvin Way, qui est aussi un artiste que vous pouvez voir dans l'exposition, qui fait une espèce de formule chimico-physique des objets autour de lui. Il pense aussi d'avoir inventé un traitement du cancer. Et il pense qu'en fait, les petits dessins qu'il fait, ils ont un vrai pouvoir magique. Donc il dit qu'il faut s'en méfier parce qu'ils peuvent être très dangereux. Enfin, c'est une reconstitution des objets par des formules chimiques. Et lui, en fait, c'est un artiste qui vit à New York, à Bronx, dans la rue quasiment, et qui délire tout le temps. Donc, on a enregistré 3 ou 4 heures de monologues que j'essaie de transcrire. Mais je ne sais pas du tout comment on va monter le film parce que je n'ai pas trouvé encore une espèce de logique. Je ne sais pas ce qu'il faut enlever, ce qu'il faut garder, parce que comme c'est tout un système qui est très différent de notre logique à nous.
C'est ça. Ou alors il faut faire un film de 3 heures. Avec un
ou alors il faut laisser, les roches. Mais c'est très compliqué. Comme c'était compliqué de faire le film sur Koschek finalement, parce qu'on avait des jours d'explications, mais on ne savait pas ce qui était plus, enfin, quelle hiérarchie donner. À tout ça, parce que
lui,
comme tout est lié,
tu
veux l'infini, ce qui se passe dans des nuages, son monde quotidien, les onomatopées, ce qu'il entend, les couleurs, en fait, son cerveau ne fait plus le tri. Mmh. Donc, il est envahi par toutes ces informations-là.
C'est malade, justement, de vouloir...
Mettre de l'ordre
mettre
dans
de
tout
l'ordre
ça.
Et du sens.
Mais je pense que
plutôt
pour
que
ta,
d'assumer
pour,
le,
pour ta survie.
Le désordre, parce qu'il y a ça aussi dans, le, ouais. dans l'expo, le désordre du monde. Mmh.
Oui, c'est la tentative
chaos, comme,
de.
Comme
de,
dit,
de...
La première salle, c'est aussi.
De
c'est une
survie,
façon de l'assumer.
En fait.
Ouais, ouais.
Mm. Alors, on n'a pas du tout situé le lieu à Montreuil, en fait. Qu'est-ce qui se passe là-bas?
Alors, le lieu à Montreuil, ça se veut pas. Enfin, c'est un espace qui, où on fait des expositions ouais. non commerciales. Et on a la liberté de montrer des artistes complètement inconnus parce qu'on n'a aucune rentabilité. Ouais. Enfin, c'est un espace à rendre, en fait. C'est un espace dont on dispose pour les cartes blanches, pour montrer des artistes que personne ne connaît, pour se faire plaisir. Mmh. Donc,
parce que là, vous avez une visibilité à la Maison Rouge, mais c'est exceptionnel. La chose normale, habituelle, c'est à Montreuil.
Oui, on n'est pas équipé pour faire ce genre d'exposition. Ouais. Il y a d'autres lieux qui le font. Il y avait une exposition en 2004 au Pavillon des Arts, il y a l'exposition à la Maison Rouge, et puis la collection Voyage, il y avait toute une série d'expositions au Japon. La prochaine expo qu'on a en route, c'est une exposition à Prague, pareil, dans un espace de l'art contemporain. Donc, la collection Voyage et Montreuil nous sert en fait de laboratoire pour des conférences, pour des projections des films et puis pour des expositions des artistes que personne n'a vu, en fait, pour des découvertes souvent.
Très bien, on peut peut-être rappeler, donc c'est rue Voltaire, je crois.
C'est 12 rue Voltaire. L'exposition qui a lieu en ce moment, c'est l'exposition d'Éric Derken, qui est aussi un artiste qui est présent dans l'exposition de la Maison Rouge, qui fait une espèce de visage décomposé. Un fragment.
C'est fascinant, puis ça nous fait face et ça nous déborde tellement l'œuvre.
Oui, c'est une œuvre qui est très puissante.
Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Barbara, d'être venue nous parler donc, de la collection ABCD de Bruno Decharme qui est exposée actuellement à la Maison Rouge, la Fondation Antoine de Galbert. On peut peut-être rappeler l'adresse, tout ça, 10 boulevard de la Bastille, donc dans le 12e arrondissement de Paris. C'est 9 euros plein tarif, c'est 6 euros tarif réduit et c'est donc jusqu'au 18 janvier.
Et c'est gratuit pour les chômeurs, je l'ai dit la semaine dernière et je le redis. Et peut-être, vous avez un site internet?
Alors www.abcd-abreut.net.
Ben voilà, merci beaucoup Barbara.
Ben merci à vous.
Merci beaucoup Barbara.
Ben merci à vous.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, dans quelques instants sortir du colonialisme. Le tarif réduit à la Maison Rouge, c'est pour les 13-18 ans, les étudiants, maison des artistes et cartes seniors. Accès gratuit pour les chômeurs, les moins de 13 ans, les accompagnateurs de personnes invalides. Et les amis de la Maison Rouge, pour devenir ami de la Maison Rouge, le laissez-passer annuel, plein tarif 24 euros, c'est vraiment pas cher. Laissez-passer tarif réduit, 16,50 euros, hein, pour voir toutes les expositions toute l'année. Voilà, quelques annonces avant de nous quitter. Je signale qu'il y a une autre exposition d'art brut à la Halle Saint-Pierre, sous le vent de l'art brut 2. C'est 2 rue Ronsard, dans le 18e arrondissement de Paris. C'est la collection de Stat Schoff, du 17 septembre 2014 au 4 janvier 2015, une sélection de 41 artistes, 350 œuvres. Ça vaut le coup aussi de faire les deux expositions. Vendredi 7 novembre, ce soir, 17h30 à 19h30, expo dédicace de Laurent Nicolas et des éditions Lilo, en soutien à la librairie à l'occasion de la sortie du Voleur de silhouettes et Petit traité à l'intention des Rossignols. C'est un ouvrage collectif, lecture à plusieurs voix ce soir au 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement de Paris, à la librairie Publico. Ce soir également, à 20h30, duo Michel Doneda au saxophone et Fred Marty à la contrebasse, notre copain Fred Marty. Également le trio G55, Anita Glodec à la voix, Jean-Marc Foussa à l'ordinateur et Francis Larvor à l'électroacoustique. 99 rue du Ruisseau dans le 18e arrondissement, métro Porte de Clignancourt. Le prix d'entrée 7 euros, fermeture des portes à 21h. Demain, samedi 8 novembre à 16h30, présentation en texte et en chanson de La Nueve, spectacle qui aura lieu les 17, 18, 19 novembre au 20e théâtre. Donc c'est demain à 16h30, une présentation à la librairie Publico, 145 rue Amelot dans le 11e arrondissement. Enfin, jeudi 13 novembre à 19h, dans le cadre de la sortie de la biographie Panait Israti, Un chardon déraciné et d'une nouvelle édition de présentation des Haïdouks aux éditions L'Échappée. Carmen Ossi, postfacière de présentation des Haïdouk, et Jacques Beaujard, des éditions L'Échappée, viendront présenter l'œuvre de l'écrivain roumain le jeudi 13 novembre, donc à 19h, toujours au 145 rue Amelot. Eh bien, pour terminer cette émission, on va écouter un nouvel extrait de Veltalende dédié à Auguste Valla. Le morceau s'intitule « Gloria Victoria ». Et vous pouvez entendre Christian Reiner à la voix, Isabelle Dutoit à la clarinette et à la voix, Manon Liu Winter au piano préparé, Burkhard Stengel à la guitare électrique, Franz Hautzinger, composition et trompette, et Steve Gander à la voix, c'est l'anglais, la voix anglaise, Steve Gander qu'on retrouvera la semaine prochaine, puisque notre émission de la semaine prochaine, ce seront les amateurs du duo Bruxelles. Donc on les interviewera, on les a interviewés au Festival Densité et on écoutera des extraits de leur concert avec Steve Gander. Allez, salut, à la semaine prochaine.
Zauber, 50 große Tafeln Schokolade her, da. Zaubert.